Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast Heureux au présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Osons nous poser la question en nous regardant dans le miroir, pourquoi avons-nous recours à la manipulation ? Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous, ce nouveau rendez-vous de ce vendredi. Juste vous rappeler que j'ai mis un nouvel e-book sur le blog Heureux au présent. Il vous suffit dès la page d'accueil de rentrer votre email, votre prénom et votre nom et vous pouvez recevoir gratuitement cet e-book qui s'intitule « J'ai attrapé le virus du bonheur ». 3 remèdes pour ne pas en guérir. Vous allez vous régaler avec cet e-book que j'ai voulu pratique. Donc merci aussi, quand vous l'avez lu, de me donner des retours. Il y en a quelques-uns qui le téléchargent et qui me donnent pas de retour. Donc je suis aussi preneur de savoir comment vous avez pu utiliser le matériel que je vous ai donné, ce que ça vous a procuré en bien-être, en bienfait, si vous l'avez partagé. Peut-être partager ne serait-ce que verbalement, en parler lors d'un dîner, d'une discussion entre amis, d'un after work, que sais-je, et de voir un peu comment les uns et les autres réagissent à ce que vous avez lu, ce que vous avez appris, ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et puis ce que vous partagez avec ce que j'ai écrit dans ce livre. Donc je vous laisse le télécharger, en profitez, faites-vous du bien, c'est justement là pour vous faire du bonheur. Le sujet du jour, la manipulation. Et vous avez remarqué que j'ai fait le choix de ne pas m'adresser à vous en vous donnant les éléments pour identifier les manipulateurs qui sont autour de vous, parce qu'il y en a. En vous parlant des pervers narcissiques, des gens qui dysfonctionnent, etc. J'ai choisi de nous placer dans la posture du manipulateur parce que nous avons régulièrement et généralement inconsciemment eu recours, je dirais plutôt, à la manipulation. Et parfois, on se prend d'un éclair de conscience à se dire « Mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ai-je eu recours à la manipulation ?» Elle peut avoir des formes très variées et parfois même des certaines formes qui font que l'on ne soupçonne même pas qu'il s'agit d'une manipulation parce qu'on est tellement habitué à cela depuis l'enfance, le milieu scolaire, l'adolescence, qu'on ne se rend même pas compte qu'en reproduisant ce fonctionnement-là, on est en train de chercher à manipuler la personne qui est en face. Je vais donner quelques exemples et vous allez me dire peut-être si vous vous retrouvez là-dedans. Quand vous dites à quelqu'un « ça me ferait vraiment plaisir que tu fasses ça », on est dans de la manipulation. Je sais que c'est pas forcément aussi évident que ça à vos yeux, mais c'est le cas. Un autre exemple, tu vois dans quel état tu me mets quand tu dis ceci ou que tu fais cela ? Ou bien « je te le revaudrais si tu acceptes de faire ceci ou de faire cela ». Ou « allez, s'il te plaît, fais-le pour moi, ce serait sympa ». Ou si tu avais été plus à l'écoute, ben, ça ne se serait pas passé comme ça. Vous voyez, je vous ai donné 4-5 exemples de manipulation, dont certains vous font ouvrir les yeux tout grand en vous disant mais en quoi est-ce de la manipulation ? Alors certains vous paraissent plus évidents, puis d'autres moins. Ça dépend comment vous avez parcouru votre éducation, votre enfance, quel est le milieu dans lequel vous avez évolué et qui fait que vous avez plus ou moins une sensibilité à la manipulation. Je rappelle juste que tous les exemples que je vous ai mentionnés là sont des pratiques de la manipulation. D'où la question, pourquoi avons-nous recours à la manipulation ? J'ai voulu un titre court, mais j'aurais pu continuer en disant consciente ou inconsciente, parce que bien souvent nos manipulations sont inconscientes. On vise l'objet, la raison, la motivation, en ne faisant pas attention à la forme, à la manière dont on amène les choses. Et ces réalités participent à faire que on reste dans cette approche qu'est la manipulation. Je voudrais juste peut-être commencer avec une définition. Et pour ce faire, je suis allé directement sur le site internet du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, que je trouve être, au passage, un site très intéressant en matière d'approche lexicale, grammaticale, étymologique, morphologique, synonymique, atonymique, etc. Donc, sur ce site-là, on nous donne d'emblée l'information disant que la manipulation concerne des sujets ou des animés et des inanimés. Qui dit animé dit être vivant, des animaux et aussi des humains. Et puis des inanimés, donc des objets. Donc on a dans le domaine physique un exemple, manier avec soin une substance ou un instrument en vue d'une opération scientifique. On a un autre exemple, se livrer à des expériences scientifiques. Exemple, il est en train de manipuler dans son laboratoire. On peut sortir du domaine scientifique en disant que Une autre acception de manipuler, c'est de toucher, de tenir, de transporter avec les mains, manipuler une cuillère, manipuler un bébé, manipuler une assiette, etc., un objet, quel qu'il soit. Mais c'est aussi faire fonctionner, utiliser avec les mains. Dans manipuler, vous entendez qu'il y a les mains dans l'étymologie de manipuler. Je ne suis pas allé vers l'étymologie, mais vous l'entendez. Il y a également l'idée de manœuvrer, de contrôler, d'utiliser, d'employer. Et puis quand il s'agit de quelqu'un, le CNRTL nous dit qu'il s'agit d'agir sur quelqu'un par des moyens détournés pour l'amener à ce que l'on souhaite. Là, on est dans le vif du sujet. Vous avez remarqué le nombre de définitions que je vous ai lues qui concernent des objets. L'essentiel de ce que je vous ai lu concerne des objets. Donc, l'idée peut-être sous-jacente, et c'est la raison pour laquelle je vous ai lu l'ensemble des définitions qui précédaient la manipulation de quelqu'un, c'est de comprendre qu'il est normalement plus communément légitime, dirais-je, que manipuler concerne un inanimé et pas un animé. Or, dans notre cas, il nous arrive, je dirais même malheureusement, et là je suis conscient de peser le jugement, de manipuler des animés. Même un enfant, je recommande vivement de ne pas le manipuler. Je fais exprès d'utiliser cette approche emphatique, je recommande vivement. Mais un enfant, je dirais non, ne le manipulez pas. Apprenez à le connaître, apprenez à le comprendre, à savoir quels sont ses besoins, à l'entendre, pour l'accompagner dans la direction qu'il souhaite prendre. Et si cette direction n'est pas convergente avec ce que nous voudrions, ben, encore une fois, chercher à le comprendre pour comprendre et mieux apprendre de lui de manière à l'accompagner et découvrir que peut-être dans la direction qu'il voulait prendre, qui est différente de celle que l'on voulait qu'il prenne, eh bien, il y a peut-être des choses qui sont à apprendre. Parce que la manipulation est une relation de pouvoir. Ça veut dire qu'on va aller piloter la personne. Imaginez une télécommande. Et combien de personnes qui m'entendent et que j'accompagne sourient de m'entendre dire ça, parce que j'ai au bureau une télécommande que j'utilise en disant, bah là, si vous voulez, je vous propose la télécommande. Et on me pose la question, mais pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous voudriez que votre frère, votre conjoint, votre femme, votre ami, votre patron fonctionne comme vous le voulez. Donc, prenez la télécommande et puis appuyez sur les boutons pour le faire agir comme vous le voulez. Et parfois, on est pleinement conscient, et ça, systématiquement, quand j'agis comme ça, les gens ont un sourire qui leur vient au lait. Parce que ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas conscients de vouloir manipuler. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs quand je suis allé voir un thérapeute une fois pour des problèmes conjugaux dans mon précédent mariage, et qu'il m'a dit, en fait, ce que vous voudriez, c'est que je change votre femme. C'est bien ça. Mais cette phrase était quelque peu lapidaire et, je dirais même, maladroite. Seulement, elle a été intéressante pour moi, en termes de prise de conscience, de me dire, mais je n'arrivais pas à faire en sorte que ma femme corresponde à ce que je voulais. Et ma démarche thérapeutique avait pour objet de veiller à ce qu'un thérapeute parvienne à faire ce que je n'arrivais pas à faire moi-même. Une relation de pouvoir. La relation de pouvoir a pour objet de satisfaire un vouloir et d'y arriver de manière plus rapide et plus efficace que si on laissait à l'autre la liberté d'agir et de faire comme on lui semblait. Donc on fait appel à du pouvoir pour atteindre le vouloir. Et cette manifestation successive est un révélateur d'une incapacité ou d'une grande difficulté à vivre l'acceptation. C'est quand on est dans une non-acceptation du devenir ou de la direction prise par une situation ou par une personne qu'on a tendance à faire appel à du pouvoir pour obtenir le vouloir qui favorisera l'acceptation. Si la personne fait ou est comme on voudrait qu'elle soit, on a l'acceptation. Mais vous comprenez que c'est une acceptation biaisée. Ce n'est pas une véritable acceptation, parce que finalement, c'est une acceptation moulée. La véritable acceptation est la capacité à accepter la personne comme elle est dans son devenir, même si celui-ci diffère de ce que j'aurais voulu. Vous entendez que dans la manipulation, il y a du non-amour. Du non-amour altruiste. Il y a un amour égocentrique, égoïste, un amour pour moi-même. Ceux qui ont déjà entendu le rendez-vous sur l'égocentrisme et sur l'égoïsme, allez le voir, allez l'écouter si vous ne l'avez pas lu ou entendu. Parce que c'est important de comprendre la raison pour laquelle je le dis ici. Je ne veux pas le redévelopper là. Parce que dans l'égoïsme et dans l'égocentrisme, il y a je le résume quand même de manière très succincte, comme un passage obligé ou nécessaire pour certaines personnes de manière à arriver à ce que j'appelle l'égocentrisme, comme un équilibre de la relation à soi par rapport à la relation aux autres. Donc quand on est dans un déséquilibre d'égocentrisme, on a tendance à faire appel à du pouvoir pour obtenir ce que l'on veut. Et ne vous y trompez pas, parce qu'il y a des personnes qui sont dans un altruisme impressionnant, une générosité manifeste, explicite, visible, tangible, qui donne de leur bien, qui donne du temps, qui donne d'elles-mêmes aux autres, par égoïsme, pour obtenir ce qu'elles veulent. On est dans une relation de pouvoir altruiste qui a pour objet de ramener une satisfaction personnelle. C'est une manière de manipuler les événements et généralement les autres pour sa satisfaction personnelle. Autant j'encourage à avoir des actions bonheur que l'on va semer quotidiennement pour augmenter sa satisfaction personnelle, et je vous ai donné les 10 commandements pour arriver dans cette direction il y a quelques semaines, autant dans aucun des commandements, je vous recommande d'aller utiliser quelqu'un d'autre pour satisfaire vos besoins. Vous êtes vous-même à satisfaire vos propres besoins. Et la plupart du temps, quand on est convaincu que quelqu'un d'autre doit participer à satisfaire mes besoins ou que je ne peux pas du tout le faire et qu'il faut que les autres satisfassent mes besoins, eh bien j'ai recours à la manipulation. L'émotion phare qui est présente dans ce recours à la manipulation est l'émotion de peur. Je rappelle juste les émotions de base, joie, peur, colère, tristesse, honte, et je me réfère à l'enseignement de Don Miguel Ruiz, qui est mentionné dans le 5e accord Toltec, qui est que on peut résumer les émotions qui ne sont pas les émotions de joie, donc peur, colère, tristesse, honte, en une seule émotion, ce qui fait qu'il ne nous reste plus que deux émotions phares, la joie, qui se manifeste par le bonheur, etc., la vie, la peur, qui se manifeste par colère, tristesse, honte, entre autres, et par des sous-manifestations émotionnelles. Quand je prends conscience du fait que j'ai recours à la manipulation parce que j'ai peur de ne pas obtenir ce que je veux, parce que j'ai peur d'être frustré, j'ai peur d'être déçu, j'ai peur de ne pas avoir le contrôle, j'ai peur d'être utilisé, j'ai peur finalement de ne pas maîtriser la situation, eh bien c'est intéressant parce que ça me permet d'avoir un outil pour me... Enfin, ou plutôt, un empan pour me dire je peux saisir par là une situation d'être désagréable dans laquelle je suis pour commencer à travailler, pour commencer à me faire accompagner, pour dire oui, en fait, j'ai conscience d'avoir peur et d'être installé dans cette peur. Et par conséquent, je vais être dans cette manipulation, entre autres, mais dans la dépendance émotionnelle, qui sera aussi une manière de manipuler les autres, etc., etc. Donc, c'est déjà important de pouvoir prendre ça comme un empan, en disant on peut le saisir et à partir de là, venir voir un thérapeute pour dire j'ai besoin d'être accompagné parce que je me rends compte que j'ai tendance à avoir recours à la manipulation parce que j'ai peur. Commençons par la peur. Pourquoi ai-je peur? Qu'est-ce que je peux faire de cette peur? Comment utiliser cette peur pour la transformer en autre chose, en bénéfice pour moi et puis en non négatif pour mon entourage? Parce que bénéfice pour moi, effectivement, mais pour mon entourage, c'est pas forcément évident d'avoir quelqu'un qui se retrouve installé dans la peur. Donc ça, c'est quand même aussi une chose intéressante qui permet de travailler sur soi-même. Alors, on peut juste catégoriser quelques éléments, ou plutôt manières de fonctionner, qui manifestent la peur, parce que je rappelle que c'est l'émotion phare qui pousse à la manipulation, et qui donc, en même temps, va dénoncer quelques approches manipulatoires. On pourrait mentionner, on va dire, l'intimidation. Par exemple. Tu devras te débrouiller sans moi à l'avenir si cela. Voilà. Donc vous savez qu'on est en train de mettre une pression sur la personne pour qu'elle se dise oh là là, si jamais je vais dans une direction qui est différente de ce qui est attendu, je risque de. On peut mentionner également la dépendance. Vu ce que j'ai fait pour toi, voilà. Et puis à l'avenir, je risque de changer ma manière de fonctionner voilà. J'arrose la notion de dépendance. Je te prêterai plus d'argent, hein, si c'est comme ça que tu fonctionnes. Là, je suis en train de vraiment d'enraciner une volonté de dépendance. On peut également utiliser la bouderie, mentionner la bouderie. J'en ai parlé dans un autre podcast sur le blog couple-heureux.com, où j'explique, voilà, mon conjoint boude, un des podcasts qui fait partie des plus écoutés d'ailleurs. La bouderie a une particularité parce qu'en fait, elle est une forme de silence radio visible. Et j'aime ce paradoxe parce qu'en réalité, quand c'est à la radio, on voit rien, on ne fait qu'entendre. Mais la personne qui boude dans le but de manipuler va veiller à ce qu'on voit qu'elle boude. Parce que si on ne voit pas qu'elle boude, bah, elle a perdu d'avance. Donc elle ne va pas partir en se disant « Oui, ça va très bien, à bientôt !» Et puis elle va fermer la porte et bouder dans sa chambre. Non, elle va bouder avant de fermer la porte de sa chambre. Et puis elle va veiller à ce qu'en fermant la porte de la chambre, on ait bien compris, au cas où on n'a pas bien vu les choses, qu'elle boude. Quoi. Vous voyez, il y a une volonté de rendre visible un silence. Et puis il y a aussi l'accumulation. Attends, ça fait X fois que tu fais ça, tu m'as fait ça une fois, deux fois, trois fois, c'est la énième fois que tu fais ça, et en plus tu as fait ça, et en plus, alors on va essayer d'aggraver la situation de manière à ce que la personne se rende compte que ah oui, c'est vraiment, vraiment tellement énorme, plus énorme que je l'imaginais. Et avec ces, j'en ai mis quatre ici, mais je pourrais en mentionner d'autres, eh bien on est dans une prise de conscience de sa volonté de manipuler. Pourquoi avons-nous recours à la manipulation ? Pour exercer du pouvoir sur autrui, afin d'obtenir ce que l'on veut, parce qu'on n'accepte pas les autres ou la situation telle qu'elle est. Dans le vouloir dire profond, que j'ai commencé à évoquer, c'est que j'ai un sentiment d'impuissance. Après, je pourrais me dire, mais pourquoi vouloir de la puissance ? Le sentiment d'impuissance est inhérent à la nature humaine. Nous ne sommes pas des tout-puissants. Il y a forcément des domaines dans lesquels on ne peut rien. Et surtout, d'accepter que l'on n'ait pas de puissance sur l'autre est pleinement sain pour l'esprit, pour la vie, pour l'épanouissement personnel. J'ai une puissance à exercer sur moi-même, jamais sur un autre. L'autre est libre. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure. La notion de peur, je l'ai déjà évoquée, elle est quand même dans le vouloir dire, parce qu'elle est très très présente. C'est-à-dire que j'ai peur. Et donc, comme j'ai très peur, j'ai le sentiment d'impuissance qui augmente. Hein. Tout ça, c'est corrélé, je voulais pas y revenir. Alors, ça permet de prendre conscience d'un travail à faire sur soi-même pour accepter la situation. Vous revenez quelques semaines plus tôt et vous avez un podcast qui s'intitule « L'acceptation ». Allez vous nourrir de ce que j'y ai partagé, parce que ça sera vraiment très bon pour vous. Et en plus, ça vous permet d'enclencher le pas vers la volonté que les personnes soient comme elles sont et non pas comme vous voulez qu'elles soient. Parce que, à vrai dire, une personne ne pourra jamais être comme vous voulez qu'elle soit. Même avec une télécommande, comme je le fais dans mon cabinet quand j'ai des personnes que j'accompagne, c'est pas possible. Donc vous savez que si vous avez le fantasme d'avoir des personnes qui correspondent à ce que vous voulez qu'elles soient, vous semez de la frustration dans vos propres vies, donc vous semez du malheur à la place du bonheur. Alors que si vous acceptez les personnes comme elles sont, vous semez davantage de bonheur, vous les acceptez dans leur liberté. Et vous avez en plus l'intelligence de prendre ce que vous voyez de génial, ou de vivre avec ce que vous voyez de génial chez certaines de ces personnes-là, et puis d'accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas géniales en elles. Finalement, ça vous replace dans une posture de non-idéalisant. Il n'y a pas de totem chez vous avec un buste en marbre blanc d'une grotte italienne ou d'une... N'importe, il n'y a rien. Personne n'est sur un piédestal. Parce que vous savez que les personnes sont magnifiques et que ce n'est pas parce qu'elles sont magnifiques qu'elles n'ont pas de défauts. Ça, c'était le sujet de la semaine dernière. Vous êtes une belle personne. Donc personne n'a droit à son buste, nulle part. Même pas ma femme. Et pourtant, elle sait qu'elle est très, très, très élevée dans mon amour, j'allais dire mon estime, mais c'est plus que de l'estime. Je voudrais peut-être reprendre des exemples que j'ai mentionnés ici et vous donner ce qui se cache dans la coulisse. Et j'utilise cette image de coulisse parce que c'est la peur, en fait, qui s'habille d'une manière différente en fonction des situations. Alors, si je reprends un exemple qui est Fais-le juste pour moi, s'il te plaît. Vous entendez que dans le vouloir dire de cet exemple-là se trouve « Je te demande de le faire pour moi en oubliant qui tu es et en mettant de côté tes besoins, tes valeurs et tes priorités. Finalement, je te demande de te négliger pour mon bénéfice personnel, de faire de moi une priorité et de toi une minorité. » Vous comprenez qu'en faisant ce décryptage, ça nous remet un peu les pendules à l'heure dans la tête, de dire « Ah oui, effectivement, je me rends compte que c'est grave de chercher à manipuler quelqu'un. » Si je prends un autre exemple, tu vois bien dans quel état tu me mets quand tu fais ceci ou quand tu dis cela. En fait, je voudrais que tu comprennes, quand je te formule ça, que c'est toi qui es coupable de l'état dans lequel je suis. Je ne suis pas responsable de mes émotions, je ne suis pas responsable de ma maîtrise personnelle. C'est toi qui es responsable de ma démaîtrise, de mon explosion, que ce soit de la colère ou du fait que je m'effondre en pleurs ou que j'ai envie de démissionner et de ne plus être là, peut-être de mettre fin à mes jours. C'est ce que veut dire, en partie, parce que je m'arrête là, je pourrais aller beaucoup plus loin, cette phrase « Tu vois bien dans quel état tu me mets quand ?» L'exemple suivant, je te le revaudrais si tu fais ceci ou cela. On est là dans du chantage. On a quitté la culpabilité pour être dans le chantage. Une manière de dire, en fait, je te donne ça et je m'engage à te rembourser en action, en gestes, en sympathie, en bienveillance, en service, le jour où tu en auras besoin. Mais pour l'instant, en fait, je t'achète un service ou une action. Je sais que vous n'êtes pas conscient que c'est ce que vous voulez dire quand vous avez recours au chantage, mais c'est ce que vous voulez dire au fond de vous dans votre inconscient. Un autre exemple. Allez, s'il te plaît. Ça s'appelle du minaudage. C'est aussi une forme de chantage. Parce qu'en fait, on est en train d'essayer de faire comprendre à la personne que fais-le pour moi, quoi. Même si effectivement, comme moi je l'ai dit dans le premier exemple, tu te négliges, etc. Tu vois bien que je le mérite. Je suis quand même sympa, attentif, sensible. Et finalement, c'est encore une manière d'acheter, parce qu'on pense le mériter, le service que l'autre va nous rendre. Un autre exemple. Si tu avais été plus à l'écoute, ce ne serait pas arrivé. C'est une manière de rabaisser la personne parce qu'elle a fait preuve d'une incapacité et en même temps de lui faire ressentir de la culpabilité. Une autre manière, en fait, de lui dire si tu avais été à la hauteur et que tu avais fait appel à des capacités que tu es censé solliciter quand je te parle, eh bien, on n'aurait pas eu le problème qui est en fait de ton fait. Tu es responsable de la situation dans laquelle on est, parce que si tu avais été plus attentif, eh bien, la situation aurait été tout autre. Donc, je voudrais que tu portes la responsabilité seule de ce que nous sommes en train de vivre. Je m'arrête là avec les exemples décodés. Vous vous rendez compte que ça fait un petit peu mal, c'est décodé de manière un peu brute, même si j'ai essayé de le faire de manière bienveillante. Mais je voulais aussi que vous preniez conscience de ce qui se trame dans le vouloir dire, des raisons pour lesquelles nous avons recours à la manipulation. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous avez recours à la manipulation et pas moi. Ça serait trop bien. Parce qu'en fait, en vous disant tout ça, je parle aussi de moi. Où je me rends compte parfois, après certaines phrases, de me dire « Pascal, tu as entendu là ce que tu as dit ?» Ah ouais. Avec le temps, avec l'exercice et la pratique des années, il m'arrive de fonctionner à l'inverse et de dire, ne serait-ce qu'à mon conjoint, je tiens à te dire que tu n'es pas responsable de ce que je ressens. Je suis responsable d'être ceci. Et finalement, de chercher à la convaincre du fait que c'est moi qui suis responsable de ce que je vis, de ce que je ressens et de ce que j'en ai fait. Et finalement, on a changé de camp. C'est-à-dire que je travaille de manière à faire en sorte que ce soit que mon épouse ou d'autres comprennent que je ne tiens pas à ce qu'ils portent quelque chose que j'ai apporté seul. Le temps viendra où vous vivrez cette même dynamique, à chercher à accompagner les gens avec une bienveillance qui fait qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas apporté certaines choses qu'ils ont envie de porter parce que dans leur naturel, depuis l'enfance, ils ont eu à faire face à des personnes qui avaient recours à la manipulation. Si vous choisissez de ne plus manipuler ces personnes-là, non seulement vous vous libérez en prenant votre propre responsabilité, vous vous installerez dans l'acceptation et vous participerez à faire que les gens autour de vous se sentiront libres d'être eux-mêmes et par conséquent plus heureux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Ce rendez-vous vous a parlé, ça vous a fait du bien, vous avez appris quelque chose. Alors s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous. Je ne vous manipule pas, je vous laisse libre d'en faire ce que bon vous semble. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, mettre vos 5 étoiles, vos commentaires, vos remarques, vos questions. Vous pouvez le faire également au bas de la retranscription de ce rendez-vous sur le blog heureuxauprésent.com.